Les carnets du soir, avec l'abbé Denis Veilleux.
Les carnets du soir vous proposent de me suivre comme pèlerin dans différents lieux à Rome, la ville éternelle. Je vous livre différentes pensées et réflexions. Suivez-moi dans cette réalité.
Alors, il faut nous respecter dans toutes ces fragilités. Et comme je le disais avec respect, les religions du monde, pas seulement les chrétiens, dans toutes les religions du monde, toutes ces fragilités prennent des formes et parfois elles peuvent avoir une certaine lourdeur dans le quotidien. Parce que les fragilités peuvent mener aussi à des maladies et faire en sorte que on vit ensemble les uns avec les autres et les uns pour les autres, dans la charité. Si l'Eucharistie ne nous mène pas à la charité, comme dit saint Paul, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau parler toutes les langues du ciel et de la terre. J'aurais beau me faire brûler vif. Si je n'ai pas en moi la charité, l'amour de charité, je ne suis rien. L'amour prend patience, l'amour en service. L'amour ne jalouse pas. L'amour n'a pas de rancune. L'amour espère tout, endure tout. C'est tout un travail, vous savez. J'ai beau le dire, j'ai beau le chanter. Et tout cela est le travail d'une vie. C'est le travail de l'Esprit Saint dans nos vies pour nous amener à la ressemblance. Parce que le corps du Christ, il est donné. Il est livré, il est rompu. C'est le mystère de la mort et de la résurrection du Christ. Comme disait quelqu'un il y a quelques jours, il n'y a qu'une seule messe qui fut célébrée. C'est la scène. Quand on dit que c'est la dernière scène, mais non, c'est la première scène. Il n'y en aura pas d'autre. Alors nous célébrons, nous, le seul mystère de la mort et de la résurrection du Christ, l'unique Eucharistie, l'unique action de grâce, l'unique offrande du Christ à l'amour et à la gloire du Père pour le salut du monde. Vous ferez cela en mémoire de moi. Vous ferez cela en mémoire de moi. Lorsque nous célébrons comme prêtres l'Eucharistie, nous sommes revêtus de cette dignité du Christ, parce que notre humanité, elle est fragile, elle est pauvre. Il nous faut être revêtus du Christ. Lorsque j'ai été ordonné prêtre, c'est mon accompagnateur spirituel qui a mis l'étole à mon cou, et il m'a dit, reçois le joug du Christ. Le joug. Alors le joug du Christ, c'est sa parole, c'est son évangile, c'est lui-même, c'est sa croix, ce sont les autres, c'est tous ses frères et sœurs qui feront partie de ma route et que j'aurai à servir comme prêtre, à aimer, à laver les pieds, à donner à manger, à offrir le pardon de la miséricorde, à prier, reçois le joug du Christ, m'a-t-il dit. Et j'ai revêtu la chasuble. Qui a revêtu la chasuble du prêtre que j'étais devenu? Eh bien, c'est ma mère et mon père qui m'ont tissé. J'ai été tissé dans le sein de ma mère. C'est l'amour de mon père et de ma mère qui m'ont fait naître. Et Dieu y a participé, parce qu'il est le principe de la vie. Alors comme ils m'ont tissé, à travers mon éducation et tout, la chasuble, c'est un tissage, c'est le revêtement. Je revais le Christ. Eh bien, c'est ma mère et mon père qui m'ont habillé. Et j'étais revêtu de cette chasuble qui aussi représente le Christ. C'est comme l'explosion du baptême. Le baptême, nous sommes, oui, revêtus du Christ. Le vêtement blanc, par exemple, dans la liturgie, le rite du baptême. Mais là, il y a une mise à part que le Seigneur réalise par le don du sacerdoce ordonné, du ministère ordonné. Alors nous sommes revêtus du Christ pour la célébration de l'Eucharistie et de tous les autres sacrements. Donc c'est tout cela dans cette célébration du Corpus Domini qui revient à mon cœur et à mon esprit. Ce sont les souvenirs, mais en même temps le présent. Et cette Église concrète, réelle, avec ses grandeurs et ses misères, avec sa beauté et ses fragilités. C'est cela, l'Église, que le Seigneur aime, qu'il a voulu, dans chacune des cultures. Nous étions au Vatican. C'est une culture aussi. C'est la culture de l'Italie à travers les siècles. C'est la culture de tous ces artistes qui ont contribué à ce que non seulement les lieux, mais les liturgies puissent avancer comme cela. Mais dans d'autres pays, il y a des adaptations, il y a le respect de la respiration de chacune des églises dans sa manière d'aimer, sa manière de chanter, sa manière de célébrer le don de Dieu. Oui, il y a une certaine unité, mais il y a une diversité qui est une richesse, qui fait en sorte qu'on peut jouer du tam-tam dans certaines églises du monde. On peut jouer de l'harpe, on peut jouer de l'orgue, on peut jouer de la flûte, on peut jouer du piano, on peut tout simplement jouer de nos voix, la voix humaine, pour être une louange à la gloire du Père.
Je pense toujours à vous lors de ces pèlerinages et en célébrant l'Eucharistie, je prends le temps de méditer les évangiles et d'en faire des commentaires, ces brefs homélies.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 12, versets 35 à 37. En ce temps-là, quand Jésus enseignait dans le temple, il déclarait « Comment les scribes peuvent-ils dire que le Messie est le fils de David ? » David lui-même a dit, inspiré par l'Esprit Saint, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite, jusqu'à ce que j'aie placé tes ennemis sous tes pieds. » David lui-même le nomme Seigneur. D'où vient alors qu'il est son fils ? Et la foule, nombreuse, l'écoutait avec plaisir. La formulation que Jésus emploie m'apparaît être une formule des rabbins. Les rabbins scrutent les Écritures et les font parler. Non seulement ils les lisent, mais ils les entendent, ils les font parler, ils les commentent. Et dans leurs commentaires, nous qui sommes, je dirais, plutôt du côté des Occidentaux ou des Américains, anglo-saxons, notre manière de penser est souvent très éloignée de la pensée des Sémitiques.
Alors ici, nous avons là un exemple que Jésus emploie un procédé rabbinique pour désigner que le Messie est le Seigneur de David et à la fois le Fils de David. D'ailleurs, tout le long des évangiles, il sera interpellé comme étant le Fils de David. Rappelez-vous l'aveugle à Jéricho qui est sur le bord du chemin, qu'on a mis de côté et qui crie « Aie pitié de moi, Jésus, fils de David !» Alors c'est un nom qui est attribué aussi au Messie. Il est le fils de David, de la lignée de David. Il faut se rappeler également que lorsque Joseph et Marie vont descendre pour le recensement, ils vont descendre où ? À la ville de David, la ville de Bethléem. Et les Écritures nous montrent comment le fait de naître à Bethléem, la ville de David, eh bien, il accomplit, le Messie accomplit, et l'accomplissement de la naissance du Messie se fait à Bethléem, dans la ville de David. Alors, ce sont des procédés qui nous permettent à la fois de dire que Jésus, le Messie, est le fils de David. Et Jésus renvoie à une autre parole pour dire que David, lui, le Seigneur dit à mon Seigneur, siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, comment peut-il dire, lui qui est le père de David dans la lignée, peut-il dire, le Seigneur a dit à mon Seigneur. Et c'est là que Jésus, d'une certaine manière, les laisse réfléchir. On n'a pas une conclusion ici. Il n'y a pas de conclusion. Il y a tout simplement une proposition de faire parler les Écritures. Faites parler les Écritures. Je vous ai souvent justement parlé des Écritures comme étant marcher en creusant. Il y a même une émission à la radio qui s'appelle Marcher en creusant. C'est ce qu'on appelle la halakha. Il y a toujours un premier niveau dans l'écriture. C'est le niveau que nous entendons, nous lisons. C'est le premier degré, nous pourrions dire, de la parole de Dieu. Mais il y en a d'autres. Parfois, nous nous attachons à un mot qui correspond à un autre mot et qui, d'une certaine manière, oriente la signification des versets. Les récits rabbiniques en sont remplis. Je vous donne un exemple de ces récits où on fait parler les mots. L'épisode du figuier et de Nathanaël, par exemple. Nathanaël de Cana en Galilée, qu'est-ce qu'il va dire lorsque Philippe lui annonce qu'il a trouvé le Messie et qu'il vient de Nazareth? Ça passe pas. De Nazareth, qu'est-ce qui peut sortir de bon? Alors que Nathanaël connaît les Écritures. Et là, Jésus va lui dire, avant que tu ne me vois, je t'ai vu dans les Écritures. Avant que je te voie sous le figuier. Et le figuier, dans la littérature biblique, est synonyme de la parole de Dieu. Alors on peut penser que, et c'est le premier degré, que Nathanaël est sous un figuier et que là, il prie, il cherche à comprendre et scruter les Écritures. Mais un autre degré nous permet de comprendre autrement le texte. C'est-à-dire, Nathanaël, Tu scrutes les Écritures. Tu es sous le figuier qui représente la parole de Dieu. Alors, avant que tu ne me voies, moi, je t'ai vu sous le figuier, c'est-à-dire je t'ai vu me chercher dans les Écritures. C'est cela, le second degré, ou la halakha qui nous permet de comprendre à travers les mots, le figuier, parole de Dieu, Nathanaël, chercheur et scruteur des Écritures, qui, évidemment, sait très bien que le Messie doit naître à Bethléem. Alors, quand on lui dit qu'on a trouvé le Messie et qu'il vient de Nazareth, il y a un court-circuit, là. Alors, Jésus lui révèle qu'il le connaît. Je t'ai vu me chercher dans les Écritures. Et nous connaissons la suite. Jésus qui lui révèle qu'un jour, eh bien, les anges de Dieu monteront et descendront au-dessus du Fils de l'homme. Ce qui veut dire, tu seras témoin de ma montée et de ma descente, de ma descente dans la passion et de ma montée vers le Père. Les anges de Dieu qui voient monter le Fils de l'homme, ça nous rappelle aussi l'échelle de Jacob. Vous voyez, tout dans les Écritures, non seulement se lit, mais nous sommes en dialogue. La parole parle, la parole dialogue, les mots dialoguent entre eux. Donc, cet épisode nous fait comprendre à chacun d'entre nous que nous avons la capacité dans l'Esprit Saint de bien comprendre la parole de Dieu. Le Seigneur n'a pas pu nous donner une parole incompréhensible. Certes, il a réservé des explications aux disciples. Il le dit d'ailleurs dans les évangiles. Je leur parle en parabole pour qu'ils ne voient pas véritablement les choses, mais ils les entendent, qu'ils cherchent, qu'ils les entendent. Ça fait toujours son chemin. La parole fera toujours son chemin. Mais à l'écart, Jésus explique de façon précise les Écritures. Et même là, les disciples, les apôtres, entre nous, ne saisissent pas toujours, ne comprennent pas réellement toujours ce que Jésus leur dit. Ils essaient de le faire de manière très simple, mais ils ne comprennent pas toujours. Alors, nous, qui sommes habités du don de l'Esprit Saint, du don d'intelligence, l'intelligence des Écritures, nous avons ce qu'il faut pour nous en nourrir. Mais en même temps, si nous scrutons davantage, si nous méditons les Écritures, nous allons voir que les mots vont s'illuminer, les mots vont apporter leur lumière et les mots vont nous éclairer. La consolation viendra des Écritures, ce qui veut dire que la parole de Dieu, elle est une lampe qui éclaire nos pas sur la route. Alors, continuons de puiser dans cette parole, continuons de l'aimer, de la scruter, de l'étudier, pour que les mots de Dieu dialoguent en nous, et nous mettent nous-mêmes en dialogue et en recherche de comprendre la parole de Dieu et les Écritures.
C'était les Carnets du Soir avec Denis Veilleux qui vous parle. Réalisation technique, Yannick Caron.